var det ju
Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors on continue avec ce cher Abi Khan.
Oui, oui, un personnage extrêmement important.
Oui, incroyable.
Voilà, donc aujourd'hui nous allons consacrer l'émission au livre d'Abraham Khan, Le petit fiancé, récit du ghetto de New York, traduction d'Isabelle Rosenbaumas, qui vient de paraître aux éditions Zoé.
Incroyable. Ouais. Quand on pense rien que ce journal, le Forwards et ses courriers des lecteurs, c'est déjà énorme, mais ce n'est pas la seule chose qu'il ait fait dans sa vie, n'est-ce pas? Il a écrit.
Oui, oui, oui. Alors, ça fait partie de ces gens pour qui tout est facile hein, et qui peuvent se promener entre plusieurs langues. Donc, lui, il connaissait le russe, mais il n'a pas écrit en russe. Il a écrit donc en yiddish et en anglais, excusez-moi.
Rapidement, hein, il a appris l'anglais rapidement.
Oui, voilà, dès qu'on est arrivé aux USA, il apprend l'anglais et puis il écrit très vite en anglais, même si ses premières productions littéraires hein, sont en yiddish. Hein, c'est-à-dire que dès 1894, il écrit dans le Arbeiter Zeitung, donc le journal des travailleurs, un roman qui est paru en feuilleton, hein, comme c'est souvent le cas pour tous ces textes yiddish, « Viazoy refuel Naritsov, is geworden socialiste ». Donc, comment Raphaël Naritsov est devenu un socialiste. Donc là, c'est l'histoire vraiment d'un ouvrier qui arrive aux USA et avec la dure vie qu'il mène, il va devenir socialiste. Donc c'est un roman militant, mais qui a eu un gros succès, qui a été traduit en anglais rapidement, qui a eu plusieurs éditions. Abi Khan est vraiment un écrivain tôt, hein, un écrivain des premières générations d'écrivains yiddish, il faut bien voir ça. Hein. Il est un contemporain exact de Sholom Aleichem, qui est né en 1859, lui il est né en 1860, donc on est vraiment dans la même génération. Et il est aussi un contemporain de Israël Zangwill, qui lui est né en 1864 et dont les premiers romans ont paru en 1894 comme les textes de Abi Khan. Et pourquoi je cite Zangwill? Parce que Zangwill écrit en anglais et Zangwill emploie aussi le mot ghetto. Hein, mais alors là, nous sommes dans les ghettos londoniens, dans les ghettos d'Angleterre, alors qu'avec avec Abi Khan, nous sommes dans le ghetto de New York. Hein. Alors ce mot de ghetto qui effectivement peut avoir un sens très, très, très péjoratif est ici tout simplement employé pour dire que ce sont les quartiers juifs. Hein, les quartiers juifs aussi bien...
Comment on dit le ghetto à Strasbourg, quoi, le rue Sélénique.
Voilà, on commence aussi à employer ce mot ghetto qui peut avoir un sens, heureusement, tout à fait...
un ghetto choisi.
Voilà, un ghetto choisi. Voilà, donc, en 1896, il écrit son premier roman en anglais, Yekl, a Tale of the New Yorker Ghetto, donc nouveau ce mot ghetto, je le cite parce que ça a donné le film très connu Hester Street. Voilà, et donc en 1898 sort ce roman, donc, c'est une série de nouvelles, qui parle d'un thème qui va être très fréquent chez les écrivains yiddish et qui apparaît aussi chez Sholom Aleichem, c'est finalement la division, le dialogue entre l'ancien monde et le nouveau monde. Hein, c'est-à-dire, ce sont ces personnes qui sont nées, évidemment, dans l'ancien monde, qui sont nées en Russie, qui sont nées en Pologne, et qui viennent aux USA. Donc, lui, il fait partie vraiment des premières générations. Et comment ils s'adaptent, comment ça se passe, et comment ils vont essayer de vivre là et tout en ayant la nostalgie ou la pensée, en tout cas, à leur sort et à leur ancienne ville. Hein, ils y retournent aussi. Hein, voilà. Alors là, nous sommes vraiment dans un texte où il n'y a pas du tout cette nostalgie qui va apparaître après la guerre de 39-45, évidemment après la Shoah, où vraiment là, tous ces souvenirs vont être souvent magnifiés. Là, nous sommes vraiment avant même la guerre de 14. Hein, on est vraiment dans l'ancien monde, dans un monde qui est presque immobile et qui peut être décrit de façon assez objective, on peut dire. En tout cas, c'est sans regret, sans simplement une description telle que se présente ce pays. Et voilà, donc avec évidemment, selon les auteurs, des tonalités tout à fait différentes. Voilà, donc peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du texte, on écoute peut-être une petite musique.
Oui, alors j'ai une musique qui est... illustre assez bien ça. C'est cette chanson qui s'appelle... alors, c'est du yiddish et de du... Comment on dit
English.
Du English, voilà, je ne retrouvais plus le mot. What can you mark? Et c'est Amérique. What? Alors, ça s'écrit en... Bon, ça dépend des versions, mais il y en a qui... Ils n'écrivent pas comme what, W-H-A-T. Il écrit comme on le prononce, comme le prononce le yiddish, c'est-à-dire le W. Ils n'arrivent pas trop à le faire. Alors, what can you mark? Machen, on dirait machen, mais what can you mark? C'est Amérique. Donc, c'est sur, tout ce qui change chez les gens quand ils veulent s'intégrer. Là, il est beaucoup question de payes et de board qu'on coupe. Et c'est, voilà, et les hommes sont rasés, ce qui était vraiment, par rapport à l'ancien monde, quelque chose de transgressif. Alors là, je voulais le faire entendre dans une version des Goyims, ce groupe-là, qui existe déjà depuis longtemps, je ne sais même pas s'ils existent encore. Ça date de 1998, le siècle précédent.
Voilà, et... un siècle après
Exactement. Myriam Fuchs a aussi enregistré cette chanson, mais là, c'est une voix toute seule. Avec les Goyims, comme c'est une fanfare, c'est toujours très, très dynamique et ça colle vraiment bien pour cette chanson-là. Donc, c'est cette version que j'ai choisie. Donc, dit Goyim qui joue What Can You Mark et c'est Amérique.
Kein American zu kommen, hab ich gemisch vor, hab gebringt darauf zu werden, verlassen sie ein paar. Gott, so schöne Beis, wie jeder früher hier. Zum Sonnen statt die Bord, aber die Beis auch nicht. Wollt ihr mir fragen, Steiner, wie kann das sein? Der ist der von uns lieber frei, everybody. Gott, geh und mach es aus Amerika. Dumm auf der Bus, man sich ersäumt. Es ist Amerika, da tut er jeder auf den Boden mit der Goy. Was von PS, da sieht man keine Mückenspur, da trugen sich die Bälle, alle mit der Goy. What can you machen, es ist Amerika, es ist Amerika, what can you machen? Thank you.
Voilà, donc effectivement, le changement des gens qui arrivent aux États-Unis, c'est tout à fait...
Surtout notre... fixation sur les payes et la barbe.
Alors, c'est plus les garçons qui ont des payes, c'est les filles. Alors, je pense qu'au lieu de se faire les nattes traditionnelles, les jeunes filles se font ce qu'on appelle ici des anglaises, des boucles, voilà, qui ressemblent effectivement aux payes. Alors, dans ce livre, donc, Le Petit Fiancé, traduit comme ça par Isabelle Rosenbaumas, qui a fait une très belle traduction et une belle introduction, en anglais, c'est The Imported Bride, c'est-à-dire le fiancé importé. Mais c'est vrai qu'en français, ça sonne extrêmement bizarre et puis il faut connaître un petit peu le contexte. Alors, dès les premières pages, nous faisons connaissance d'une jeune fille juive, Flora, qui est en train de lire La Petite Dorrit de Dickens. Comme le remarque Isabelle Rosenbaumas, les livres ont beaucoup d'importance et les langues ont beaucoup d'importance dans ce livre. Et puis arrive son père, Azriel Strom. Azriel Strom, qui est un juif, bien sûr, enrichi, qui a eu deux boulangeries, qui s'est occupé aussi d'immobilier, et qui maintenant, sur ses vieux jours, bon, il n'est pas très vieux, il arrive à la soixantaine, mais enfin, il considère qu'il est vieux, eh bien, il devient de plus en plus religieux. Donc là, nous le voyons, qui fait le kaddish pour son père, il fait aussi les prières avant le repas. Et il déclare tout d'un coup à sa fille qu'il va aller en Europe, qu'il va retourner dans son shtetl, dans Pravli. Je n'ai pas vérifié si c'était un vrai endroit ou si c'est inventé. En tout cas, il va retourner là-bas pour lui chercher un fiancé, tout simplement, parce qu'il trouve que les gens aux États-Unis sont trop assimilés.
Voilà, ils ont coupé leur barbe et leur payesse.
Voilà. Elle rêve d'épouser un médecin, mais alors lui, il lui dit que pas du tout et qu'il va lui chercher un fiancé. Voilà. Et donc, notre Azriel part à Pravli. Et il arrive là-bas, et là, il y a une très belle description, très poétique et bucolique, voilà, de ce paysage à Pravli. Donc, peu de temps après, les arômes de mai par bouffées dessillèrent ses yeux qui s'écarquillaient sur une étendue multicolore et ondoyante, tandis que ses oreilles s'ouvraient au pépiment alangui des oiseaux. Il reconnaissait les somptueux boutons de trèfle dans le vaste éventail de magnificence impassible, et les pissenlits et les boutons d'or. Et même si sa langue maternelle ne lui permettait pas de nommer spécifiquement chacune de ces fleurs, il s'y référait à présent par la dénomination collective de tzatzkes. Alors, tzatzkes, ça veut dire des jolies choses, ça peut vouloir dire aussi des babioles, hein. Un mot dont il n'avait pas fait usage depuis 35 ans. Donc là aussi, en regardant ce paysage de son enfance, eh ben, le yiddish lui revient. Voilà. Et donc, il y a aussi un paysan polonais qui le conduit donc, dans sa charrette. Et alors, il est aussi très ému en entendant le polonais. Et puis, il retrouve sa ville. Alors, dans sa ville, c'est à la fois les choses n'ont pas changé. On a l'impression que le décor n'a pas changé. Donc, là aussi, on est vraiment, comme je disais, dans ces villages qui restent finalement les mêmes. Donc, lui est parti il y a 35 ans, mais les choses n'ont pas changé. Par contre, les gens ont changé et ça, c'est pas toujours positif. Hein. Le voilà donc, lui est très ému, il est très content de les revoir, bon, même s'ils ont évidemment vieilli. Et voilà sa rencontre avec son meilleur copain. « Schmoulke !» s'écria-t-il à l'instant où il aperçut un vieux copain, comme si leur séparation datait d'à peine plus d'un mois. Certes, Schmoulke n'est plus le jeune compagnon alerte, plein d'exubérance de jadis. Il porte une barbe blanche et semble plutôt décrépit. Pour Azriel, cependant, une barbe venait juste d'être collée sur le visage lisse qu'il avait connu. L'activité fébrile dans laquelle il avait consumé ses 35 dernières années de sa vie l'avait laissé sourd au bruit de pas du temps qui s'enfuit. Il avait pris conscience récemment que les mots de vieil homme s'appliquaient à sa personne. Et même alors, cette réalité ne s'était jamais encore imposée à lui de façon aussi probante, avec une telle force implacable, ainsi qu'elle le faisait à cet instant précis où il se tenait face à face avec Schmoulke. « Schmoulke, ange de la mort, une inflammation dans tes vieux os !» s'écrie-t-il, tandis que lui revient soudainement le surnom de son camarade de jeu, et qu'il la grippe par les épaules. Oui, alors, Ange de la mort, c'est Malach à mauvaise. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on appelait comme ça ce pauvre petit garçon. Je voulais que je sois embarrassé. Il est tout honteux de ce sobriquet oublié depuis belle lurette et s'exprime pour se libérer de cette étreinte importune. Mais Azriel est de loin le plus fort des deux. Il continue de le presser et de le tapoter. Quant à sa tante Sarah Rachel, qu'Azriel avait laissée lorsqu'elle était déjà une commerçante d'un certain âge, mais encore extrêmement active et avisée, il retrouva un sac d'eau englouti par la sénilité. « Tu ne me reconnais pas, tata ?» Elle n'y mit pas la moindre réponse. « Qui est-ce qui volait des raisins secs dans ton épicerie ?»« Elle ne comprend plus rien, » murmura Azriel consterné. Voilà donc le mélange entre le plaisir de des retrouvailles et puis les surprises plutôt négatives. Voilà donc, Azriel va rester là et il va participer aussi bien sûr à l'office, à la synagogue. Et là va se dérouler une scène d'enchères pour monter à la Torah.
Ça, c'est comme chez Shalom Aleichem, justement. Est-ce que Abbi Kahan avait lu Shalom Aleichem ?
Alors, je pense que non, parce qu'en fait, ils sont tout à fait contemporains. Donc, on peut dire que les thèmes qui sont abordés par Shalom Aleichem sont les mêmes que ceux qui sont abordés par Abbi Kahan. Mais je ne pense pas qu'il l'avait lu, parce que les textes de Shalom Aleichem paraissent exactement dans les mêmes années. J'ai regardé. Il y a aussi l'histoire d'un riche qui va qui retourne au pays pour trouver une fiancée, et c'est exactement la même situation que là, enfin encore que c'est une fiancée pour lui-même, alors que là c'est un fiancé pour sa fille, mais bon, le thème est un peu le même. Et ça, c'est dans Eisenbahngeschichte, dans les histoires du train. Et mais je pense pas qu'il l'avait lu, hein, parce que c'est vraiment contemporain. Hein. On peut dire que Abbi Kahan fait partie des premiers écrivains yiddish, sauf qu'il écrit en anglais. Voilà. Mais les situations qu'il présente sont tout à fait similaires. Donc voilà, il y a cette enchère. Azriel a l'impression qu'il a gagné les enchères, mais en fait c'est un autre qui est appelé à la Torah, Reb Lipet. Donc il commence à faire un scandale, et puis après, comme les gens le gronde un petit peu, le vieux rabbin le gronde, donc il arrête. Par contre, il va faire à peu près les mêmes enchères pour acheter, on peut dire, un fiancé pour sa fille. C'est un jeune qui s'appelle Shaya, qui est ce qu'on appelle un Nile. Je crois que le mot est employé, c'est-à-dire un prodige. Ce sont ces gens hyper mnésiques qui connaissaient tout le Talmud par cœur, qui pouvaient trouver un mot quand on leur donnait. Enfin, voilà. Donc, il y a ce Shaya qui est là, et Reb Lipet aimerait le prendre pour sa fille, mais Azriel va monter les enchères, c'est vraiment ça, et finit par l'emmener donc aux États-Unis. Il lui fait déjà un cadeau, il lui offre une montre, et puis il lui dit, mais ça c'est rien avec ce qui va se passer aux États-Unis. Et voilà, Shaya et Azriel qui reviennent, et donc Flora fait connaissance de ce Shaya. Alors la première rencontre n'est pas tout à fait positive. Voilà, elle lui dit, eh bien Flora, devine un peu quelle sorte de cadeau t'a apporté ton papa, dit-il en rougissant jusqu'aux oreilles. Aucune fille n'a jamais reçu un tel présent depuis que l'Amérique est l'Amérique. Voilà, et donc c'est vraiment un objet qu'il lui ramène. Les yeux de Flora, brillants de joyeuse anticipation, papillonnaient. De son imagination jaillissaient des éclats de diamants, de rubis, d'émeraudes, de saphirs, de perles. « Je t'ai trouvé un fiancé, un joyau, valeur 15 000 $.» Voilà, un joyau, mais on dit pour quelqu'un, c'est adamant, hein, un diamant de quelqu'un. « Le garçon le plus beau et le plus intelligent que la terre ait porté, c'est un Nilo. » Et à Nile, bon, elle écrit Iloui, mais Iloui est la prononciation, si je peux me permettre, hébraïque. En yiddish, on dit Il. Un garçon merveilleux versé dans le Talmud et les autres livres sacrés, etc. Consternée, la jeune fille regardait fixement son père. Était-il en train de plaisanter ou d'un sérieux absolu et renversant ? Shaya fit son apparition, les yeux baissés vers le sol, se tordant l'index avec la main droite, comme il avait coutume de le faire lorsqu'il sentait mal à l'aise. Voilà, dans son désespoir, donc après elle dit à son père que c'est pas possible, et puis ensuite elle dit, dans son désespoir, elle se précipita sur le jeune étranger qui se tordait toujours le doigt, debout au milieu du salon, le regard rivé sur le tapis, et elle dit d'un ton brusque « Monsieur, vous auriez mieux fait de partir. Si vous vous imaginez que vous allez être mon fiancé, vous vous méprenez cruellement. » Elle parlait en yiddish, mais sa prononciation, et particulièrement celle de la lettre R, peut-être elle roule, je sais pas, elle les roule ou elle les roule pas, était si nettement américaine aux oreilles de Chaya que ce yiddish répercutait à la fois sa langue maternelle et l'idiome des gentils. Et où irais-je ? Je ne connais personne ici, dit-il d'un air de désespoir naïf qui toucha le cœur de la jeune fille. Quelle faute ai-je commise ? Ajouta-t-il d'un air implorant. Voilà, donc finalement Flora, qui a bon cœur, accepte que ce jeune homme reste à la maison. Et puis ça va évoluer d'une manière assez, imprévue. C'est-à-dire qu'ils vont peu à peu se rapprocher, en particulier quand elle joue du piano, tout d'un coup il va découvrir le piano, il va beaucoup aimer. Et puis il commence à apprendre l'anglais, et puis il commence à s'intéresser finalement aux mathématiques. On voit un peu l'évolution de ce jeune homme qui découvre finalement un monde qu'il ne connaît absolument pas, mais qui s'y intéresse beaucoup et qui va découvrir aussi des bibliothèques et commencer à se promener dans tout New York et qui va peu à peu lâcher la pratique juive, quoi. Et alors, ils font ça tous les deux, Flora et Chaya, derrière le dos du père. Mais le père finit par découvrir le poteau rose, puisqu'il va un jour dans un lieu de prière, dans un Beth Amidrash, qui vraiment reproduit ceux qu'il a connus dans l'Ancien Monde, donc des vieillards autour d'un livre, mais il y a aussi des jeunes qui étudient, des ouvriers, des gens qui toute la journée travaillent durement et le soir prennent un peu de joie à écouter la Bible, à travailler la Bible, la Gemara, la Mishnah, bien sûr. Et là, il commence à discuter avec quelqu'un. Il essaye d'avoir des compliments sur son gendre, sur son futur gendre. Mais tout d'un coup, l'autre lui dit « Ah non, il est devenu un apicoïrus ». Et donc, Azriel va suivre le jeune homme jusque dans un restaurant goy où il le surprend en train de manger une escalope, mais une escalope de veau, quand même, le précise, mais enfin pas cachère du tout. Voilà, et donc là, il y a une scène assez violente et on se demande ce qui va se passer. Et alors, Flora épouse Chaya, dont elle est finalement tombée amoureuse depuis qu'il est devenu beaucoup plus moderne. Et ensuite, elle l'avoue à son père qui dit « Bon, ben écoute, on va faire un mariage juif, voilà, il se résout à tout ça. » Et ça se termine un peu bizarrement, c'est-à-dire qu'en fait, donc Flora va annoncer à Chaya, toute contente, que son père accepte le mariage. Et là-dessus, Chaya lui dit « Oui, oui, j'arrive. » Bon, elle veut l'amener à son père, « J'arrive. » Et en fait, il est dans un groupe de gens qui lisent Auguste Comte, donc, qui sont en train de découvrir le socialisme, les idées nouvelles. Et il ne veut pas la suivre. Et donc, Flora reste là, assise, à attendre. Et moi, ça m'a fait un peu penser, vraiment de différemment, au parcours de Benny Lévy, qui, lui, est parti plutôt du trotskisme et de l'extrême-gauche pour arriver au judaïsme le plus pratiquant, et qui aussi ne s'intéressait qu'à l'étude. Voilà. Donc ce Chaya, on peut dire, il passe d'une étude à l'autre, et finalement, cette pauvre Flora est un petit peu laissée de côté. Donc ça se termine un peu sur une note comme ça, un petit peu...
Il veut peut-être partir en Palestine ?
Alors, c'est le père qui parle de partir en Palestine. Le père, lui, tout d'un coup dit... donc, ils ont une dame qui s'occupe de la maison, une gouvernante, voilà, qui s'appelle Tamara, qui est très sympa. Et tout d'un coup, le père dit à Tamara, écoute, on n'a qu'à se marier, nous deux, et partir en Palestine. Voilà. Ah. Non, je crois que Chaya ne pense pas partir en Palestine. Je pense qu'il pense à à développer le socialisme en Amérique. Il devient un jeune militant socialiste, comme l'était Abeka. Il a bien sûr été inspiré de personnages.
Et finalement, c'est Flora qui est trop religieuse pour lui.
Oui, trop relu. Oui, peut-être. Oui, on ne sait pas. Il y a une espèce d'inversion des rôles, oui. C'est vrai.
Mais c'est passionnant, hein. C'est vraiment.
Oui, ça se lit très bien dans cette.
C'est pas très long, hein.
C'est pas très long. Ça se lit facilement. La traduction, comme j'ai dit, est très bonne. Voilà.
Parce que ça me fait penser aussi qu'avec toutes les lettres qu'il a reçues, donc dont on a un petit peu fait, auxquelles on a fait allusion la dernière fois, ça devait lui donner des idées de romans. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est tout
oui,
la même problématique.
Oui, sauf que là, on est avant tout ça, hein. On est avant le Fort Vert.
Avant le Fort Vert,
oui, on est avant. Après, il a écrit d'autres romans, hein. D'ailleurs, dont le plus célèbre, c'est l'histoire de David Levinsky, je crois, qui a eu The Rise of David Levinsky, écrit en anglais, évidemment, 1917, beaucoup plus tard. Donc là, entre-temps, il avait reçu, évidemment,
toutes ces lettres.
Et aussi un roman qui a
eu c'est la même problématique, puisque c'était celle des juifs de l'époque, quoi, hein. Rester religieux, ça, la barbe et les paillasses, ou alors le socialisme, ou alors toutes ces problématiques qui les ont traversées, bouleversées.
Absolument. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter encore une musique. Peut-être on termine
peut-être
avec
le
ça.
Début. Alors, c'est la bonne vieille Green Cousine.
Ah, la Green Cousine,
mais oui,
évidemment.
Qui s'impose quand même. Hein. C'est la cousine verte, c'est-à-dire qui n'a pas encore ses papiers définitifs et qui, du vieux pays, essaye de s'adapter en Amérique. Et ce n'est pas toujours facile. Mais c'est devenu une des chansons les plus connues du répertoire. Je pourrais d'ailleurs faire un jour une émission rien que sur cette chanson. Il y a tellement d'enregistrements plus formidables. Les uns que les autres. Alors j'ai rechoisi à nouveau les Goyim qui font ça très très bien. Donc la Green Cousine par les Goyim et on vous dit déjà
Shalom Aleichem,
et à la semaine prochaine.
Le Yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.